Bonjour, c'est Isabelle Labéry. Nous sommes le jeudi 9 mai 2024, il y a 806 jours que la Russie a envahi l'Ukraine.
Slava Ukraine.
Slava Ukraine. Героям слава.
Guerre en Ukraine, le podcast de la rédaction internationale de Radio France.
Dans cet épisode, on va parler des nouvelles menaces de Vladimir Poutine, de familles dont les proches sont toujours prisonniers quelque part en Russie, et d'un musicien qui vient de recevoir son ordre de mobilisation.
Salut Isabelle, c'est Virginie. Ça y est, cette fois je suis bien arrivée à Kiev.
Virginie Pironon, qui va nous accompagner jusqu'au début du mois de juin et qui vient tout juste de poser ses valises après 24 heures de voyage.
Ça m'a même pas semblé si long que ça en fait, parce qu'on prend l'avion jusqu'à Cracovie, après effectivement il y a ce train jusqu'à la frontière, et c'est quand on arrive pour faire la queue pour le train de nuit en gare de Przemysl, entre la Pologne et l'Ukraine, que ça commence à devenir réel. Et qu'on se dit, ça y est, on est dans la queue avec tous ces Ukrainiens. Il y avait beaucoup de femmes avec plein de paquets, des gens qui ramenaient de Pologne des petits cadeaux pour leurs proches.
Virginie est arrivée en pleine Pâques orthodoxe, tant de fêtes et de recueillements qui ne suffit pas, évidemment, à faire oublier la guerre.
Et c'est ce que m'a rappelé un peu Irina, ma compagne de voyage, qui a à peu près 60 ans. Son train de Cracovie était très en retard. Elle est arrivée, les cheveux complètement ébouriffés, essoufflés. Et je lui dis, oh là là, qu'est-ce qui vous arrive? Elle me dit, mais mon train est arrivé en retard de Cracovie. J'ai vraiment eu peur de rater le train pour Kiev. Et donc, on a commencé à sympathiser. Alors, elle avait été voir son petit-fils qui vit en Pologne avec sa maman près de Cracovie. Elle était très joyeuse. Et puis, d'un seul coup, son visage s'est comme assombri. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, mais toi, tu vas en Ukraine, mais c'est la première fois. T'as bien téléchargé l'application pour les alertes? J'ai dit, bah non, pas encore. Elle me dit, bah tu la télécharges tout de suite. Et puis, elle passe à autre chose. Et puis, à nouveau, conversation joyeuse. Et puis, 10 minutes plus tard, tu sais où il y a un abri en cas d'alerte aérienne? Je lui dis, bah je sais pas, je vais voir en arrivant. Et là, elle me dit, mais tu... Voilà, c'est pas une blague. Si jamais il y a une alerte, tu vas te protéger. Et on est sans cesse sur ces allers-retours. On sent à la fois que les Ukrainiens aujourd'hui ont envie de... Bah, simplement, la vie continue, il y a une vie quotidienne et il faut bien la vivre, cette vie. Et elle est toujours très vite rattrapée par la guerre. Et je vais te laisser Isabelle parce que aujourd'hui on va aller tourner, je suis avec Camille, on va aller tourner un sujet sur le démantèlement des monuments soviétiques. Évidemment, les Ukrainiens essaient de faire table rase de leur passé commun avec la Russie. Et il y a un monument dans le centre de Kiev qui est en train d'être démantelé. Donc on va aller voir ça. Et évidemment, on en reparle ensemble très vite. À plus tard.
À force de dire qu'un jour, peut-être, il ne faudra pas exclure d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine, Emmanuel Macron a fini par irriter le maître du Kremlin. Dans un entretien à l'hebdomadaire britannique The Economist, jeudi dernier, le 2 mai, le président français revient en effet sur le sujet. Frédéric Seyss nous résume sa position.
Il ne faut exclure aucune hypothèse par principe, estime Emmanuel Macron, face à un adversaire qui n'a aucune limite. Il ne cite pas Vladimir Poutine, mais l'allusion est claire. Pour la première fois, toujours dans le registre de l'hypothèse, Emmanuel Macron développe cette position. Par exemple, si les Russes devaient percer les lignes de front, dit-il, et s'il y avait une demande ukrainienne, alors on devrait légitimement se poser la question, assure le chef de l'État, la question donc de l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Pour appuyer sa démonstration, le chef de l'État rappelle que la France a envoyé des soldats en Afrique, au Sahel, en réponse à une demande d'aide des dirigeants locaux, sous-entendu, pourquoi pas pour l'Ukraine. Emmanuel Macron pointe aussi la nécessité d'une défense européenne pour ne pas dépendre simplement des États-Unis.
Le lendemain de la parution de l'article, le Kremlin qualifie ses propos de très dangereux. Tandis que sur France Inter, le maire de Kiev, Vitali Klitschko, résume le sentiment général en Ukraine. Pour l'instant, des combattants étrangers, ce n'est pas vraiment la priorité.
Je suis persuadé qu'aujourd'hui, il est bien plus important de nous fournir des armements modernes. Nous avons un déficit des armements, des obus, et en ce sens, nous avons besoin des choses qui nous manquent cruellement. En ce qui concerne l'arrivée du contingent étranger en Ukraine, je pense qu'aujourd'hui, la question n'est pas aussi aiguë, mais s'il y a un désir d'aider l'Ukraine avec les armements modernes, nous serons très reconnaissants.
La question d'une intervention au sol reste extrêmement hypothétique et pourtant, lundi 6 mai au matin, Vladimir Poutine dégaine son arme préférée, la peur. Il ordonne à l'armée russe de se préparer, dans un futur proche, à des exercices impliquant des armes nucléaires non stratégiques avec des troupes positionnées près de la frontière ukrainienne.
Une nouvelle fois, la Russie décide donc d'agiter la menace nucléaire dans le combat qu'elle estime mener face à l'Occident.
Sylvain Tronchet, correspondant de Radio France à Moscou.
Si les exercices nucléaires ne sont pas rares dans le pays, ceux-ci vont être effectués en réponse aux déclarations provocatrices et menaces de certains responsables occidentaux proférées à l'encontre de la Russie, a écrit le ministère de la Défense russe afin que les choses soient bien claires. Ces exercices ordonnés par Vladimir Poutine, précise le ministère, impliqueront l'aviation, la marine et les forces du district militaire sud basées aux frontières de l'Ukraine. Ils viseront à maintenir la préparation des armes nucléaires non stratégiques, dites aussi tactiques, des bombes de moindre puissance pouvant être utilisées sur un champ de bataille, mais dont la puissance reste néanmoins dévastatrice. Moscou a également convoqué les ambassadeurs de France et de Grande-Bretagne. Pour le français Pierre Lévy, c'est la troisième convocation cette année. On ne sait pas exactement ce qui lui a été dit. En revanche, son homologue britannique s'est vu reprocher les récentes déclarations de son ministre David Cameron, qui a brisé un dogme en estimant que l'Ukraine pouvait légitimement utiliser des armes britanniques pour frapper le territoire russe. Une déclaration qui a provoqué la fureur de Moscou, qui menace à son tour de frapper des installations britanniques en Ukraine et au-delà, sans plus de précision. Le tout alors que la Russie entre dans une séquence importante avec l'investiture de Vladimir Poutine attendue sur la place Rouge jeudi à l'occasion des célébrations du 9 mai.
Le Pentagone dénonce la rhétorique irresponsable de Moscou, totalement inapproprié compte tenu de la situation sécuritaire actuelle.
Vladimir Vladimirovich Poutin.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Après avoir prêté serment mardi pour un cinquième mandat à la tête d'un pays qu'il dirige depuis près d'un quart de siècle, Vladimir Poutine n'a pas eu un mot pour la situation en Ukraine. Les États-Unis et le Canada avaient décliné l'invitation. La plupart des pays européens n'avaient pas de représentants, à l'exception de la Hongrie, de la Slovaquie et de la France, qui avaient choisi d'envoyer pour la cérémonie son ambassadeur.
La position de Pékin vis-à-vis de Moscou dans la guerre en Ukraine, sujet au cœur de la visite d'État qu'entame ce matin le président chinois en France. Xi Jinping parle, lui, de crise et non de conflit avec Kiev dans une tribune publiée par Le Figaro. La Chine s'est donnée comme une...
Avant qu'Emmanuel Macron ne l'emmène dans les Pyrénées pour une petite escapade informelle, censée permettre un dialogue plus direct sur la guerre en Ukraine ou les désaccords commerciaux, le président chinois était reçu en grande pompe ce lundi à Paris. Xi Jinping n'a jamais publiquement condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec laquelle il a même renforcé ses relations diplomatiques et économiques. Il a quand même fait des efforts pour satisfaire son hôte en apportant son soutien, notamment à une proposition de trêve dans le monde entier à l'occasion des Jeux Olympiques, tout en défendant la spécificité de la position chinoise, la neutralité.
Sur la crise ukrainienne, nous avons exposé à plusieurs reprises notre position. La Chine n'est pas à l'origine de cette crise et elle n'y est pas non plus partie ou participante. Mais nous ne sommes pas restés les bras croisés et nous avons toujours joué un rôle actif pour réaliser la paix. Dans le même temps, nous nous opposons à ce que l'on utilise cette crise pour rejeter les responsabilités sur un pays tiers, noircir son image et inciter à une nouvelle guerre froide.
Emmanuel Macron, de son côté, a voulu noter publiquement l'engagement de son homologue à limiter ou au moins vérifier les exportations chinoises en direction de la Russie.
Nous accueillons favorablement les engagements des autorités chinoises à s'abstenir de vendre toute arme ou toute aide à Moscou et à contrôler strictement l'exportation des biens à double usage. C'était ce que vous m'aviez dit très clairement, Monsieur le Président, il y a un peu plus d'un an, ce que vous avez réitéré. Et je crois que la longueur, la qualité de nos échanges sur ce sujet sont une source de réconfort.
C'est en effet grâce aux composants électroniques chinois utilisables dans le civil comme dans le militaire que la Russie a pu construire de nouveaux missiles de croisière qui lui permettent aujourd'hui de pilonner les villes et les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Début mai, le département d'État américain a d'ailleurs pris une nouvelle vague de sanctions contre des entreprises chinoises considérées comme participant à l'effort de guerre russe. Alors que l'armée russe annonce cette semaine encore la prise de 2 villages dans l'est de l'Ukraine, je voudrais revenir sur le sort des civils qui ont été faits prisonniers, notamment au début de la guerre. Ils sont environ 7000, hommes et femmes, que Moscou garde au secret sans que leurs proches sachent toujours où ils sont. Mi-avril, lors d'un déplacement à Kiev avec le groupe de réflexion Eastern Circles, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques-unes de ces familles. On est allé au siège du Centre ukrainien pour les libertés civiles, une ONG qui tente de les localiser et de les faire libérer. Elle a obtenu le prix Nobel de la paix en 2022. On s'est retrouvé dans une sorte de jardin d'hiver, un peu comme une grande serre, vide, et au milieu, tout un tas de chaises disposées en cercle, et sur les chaises, des mères, des femmes, des compagnes de prisonniers. Parmi elles, Irina, rendue presque euphorique par les antidépresseurs. Son mari, un grand gars costaud que les Russes ont pris pour un combattant du bataillon Azov, a été enlevé à Boutcha le 22 mars 2022.
C'est très difficile. Ma santé s'est beaucoup détériorée, surtout ma santé mentale.
Où est détenu Sacha, son mari? Quel est son état de santé? Quels sont les faits qui lui sont reprochés? En plus de 2 ans, Irina n'a jamais reçu la moindre information officielle. Elle continue de donner des cours à la fac, mais elle n'organise plus de mariage ou de fêtes d'entreprise comme avant. Ses grands yeux bleus, soigneusement maquillés, se perdent régulièrement dans le vide. L'absence a envahi son quotidien.
Quand je me réveille, il y a des photos de mon mari devant moi. Je les regarde, je les embrasse et je lui souhaite une bonne journée. Ses vêtements aussi sont là. Je les touche et je lui dis d'avoir du courage. Et je surveille les réseaux sociaux pour essayer d'avoir des nouvelles.
Pourtant, depuis peu, grâce aux témoignages de compagnons de cellule de son mari qui, eux, ont été libérés, Irina sait que Sacha est dans une unité spéciale à Rostov-sur-le-Don.
Dans chaque cellule, il y a entre 20 et 30 personnes, avec un lit à partager pour 3 ou 4. Les murs sont couverts de moisissures parce que l'eau suinte du plafond en permanence. Et la nourriture est pire que pour les animaux. Ils ne sont presque jamais sortis de cet endroit. J'ai du mal à imaginer l'état dans lequel se trouve mon mari aujourd'hui.
Le mari d'Olena, lui, a été arrêté dans la région de Kherson pendant les mois d'occupation. Journaliste retraité, il avait combattu dans l'Est en 2014, alors il donnait des conseils sur sa page Facebook pour aider les habitants à résister à l'envahisseur. Il avait aussi commencé à distribuer de l'aide alimentaire dans les villages occupés. Après 9 mois de silence, Olena a trouvé un avocat qui a eu des nouvelles.
Le 6 octobre 2023, il a été déclaré coupable et condamné à 13 ans de prison. Je sais que pendant les interrogatoires, on a menacé de s'en prendre à sa famille, qu'il a été torturé à l'électricité, qu'il a été humilié et battu. Là, il est en train d'être transféré vers la région de Radzian, dans une colonie dont j'ignore le nom.
Même la Croix-Rouge n'a pas accès à ces civils qui sont détenus au mépris de toutes les conventions internationales. Mikhail Sava est expert auprès du Centre ukrainien pour les libertés civiles.
Ce qui valide leur emprisonnement, c'est juste un papier signé par le chef régional du FSB, rien d'autre. Leur détention ne repose sur aucune base légale, même pour la loi russe.
Des civils qui ne peuvent pas être échangés contre des militaires parce qu'ils doivent faire l'objet de négociations spécifiques que le gouvernement ukrainien ne semble pas pressé d'ouvrir. Eux, à leur retour, ils ne pourront pas être renvoyés sur le front. Pour raconter ce drame, Irina a imaginé une métaphore qu'elle a voulu raconter à l'Assemblée.
Imaginez que votre cœur est comme un appartement, très lumineux, qui accueille tous ceux que vous aimez. Dans mon appartement à moi, comme dans l'appartement de la majorité des femmes d'Ukraine, il n'y a personne. Il n'y a pas de lumière. Et ce n'est pas l'électricité qui va nous aider. Rendez-nous la lumière. Je voudrais que mon cœur batte de nouveau. Faites rentrer les civils qui sont prisonniers.
Dear members of the media and the public, I welcome you. My name is Victoria Shi. I have been created by the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine using artificial intelligence to provide you with timely and high quality information on consular affairs. I am a digital person.
Vous avez peut-être vu passer cette info sur les réseaux la semaine dernière. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a une nouvelle porte-parole. Mais cette personne que vous entendez, qui prend les traits d'une jeune femme métisse, n'est pas un être humain. C'est un avatar, une personne virtuelle générée par intelligence artificielle. Dans sa chronique à Monde Connecté sur France Culture, François Saltiel vous donne la clé de cette innovation.
La performance technique est bien réalisée et il existe également une version en ukrainien. Et on imagine aisément que Victoria pourra s'exprimer dans n'importe quelle langue. Son visage s'inspire des traits d'une chanteuse et influenceuse populaire du pays qui s'appelle Rosalie Nombré. Elle est d'ailleurs une ancienne candidate ukrainienne de télé-réalité. Décidément, depuis l'arrivée à la tête de l'État d'un ancien acteur de série télé en la personne de Volodymyr Zelensky, les frontières entre politique et monde du spectacle sont poreuses en Ukraine. Son nom n'a pas été choisi au hasard. Victoria, comme la victoire tant espérée, et Shi peut être traduit par intelligence artificielle. Tout cela est bien pensé dans un storytelling de communicant, mais reste une question existentielle. À quoi ça sert? Alors, selon le ministère, Victoria va permettre d'économiser le temps et les ressources du ministère. Je cite, les autres diplomates pourront se concentrer sur d'autres tâches. Argument à relativiser, car d'une part, Victoria n'écrit pas ses textes, et des humains sont fort heureusement encore nécessaires pour la rédaction du contenu, sans parler des techniciens dont Victoria a besoin pour prendre forme. Derrière elle, il faut donc tout un petit régiment. D'autre part, le porte-parole de chair et d'os du ministère n'a pas été remplacé. Le poste est donc doublonné. Victoria est finalement davantage la porte-parole de l'intelligence artificielle que celle du ministère des Affaires étrangères. Depuis le début du conflit, l'armée de Zelensky, épaulée par les entreprises américaines comme Palantir, utilise l'IA dans plusieurs opérations, notamment dans le déploiement des drones ou l'analyse des trajectoires des missiles. Le gouvernement ukrainien l'a lui-même reconnu. Nous sommes un terrain d'entraînement grandeur nature de l'intelligence artificielle dans la guerre. L'Ukraine cherche donc à se positionner comme un pays en pointe, une manière également d'espérer des investissements étrangers dans un secteur économique en croissance. Mais en s'offrant une incarnation virtuelle, l'Ukraine prend également un risque, car Victoria pourrait facilement être détournée par l'ennemi russe pour formuler toutes sortes de contre-vérités ou encore de fake news. Alors, je n'ai pas une grande culture militaire, mais on pourrait appeler ça se tirer une balle dans le pied.
Pour terminer cet épisode, je vous propose d'écouter Dmytro Kouchnir, l'homme aux mille casquettes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris de ses nouvelles.
Oui, salut Isabelle. De mon côté, il y a pas mal de nouveaux.
Et cette nouveauté-là, j'avoue, je ne l'avais pas anticipée.
Je suis en train de me faire mobiliser dans l'armée. Donc dans quelques semaines, je pars au camp d'entraînement. Je devrais rester pendant un mois au minimum. Et je rejoins la 4e brigade de la garde nationale. Et voilà. Le temps est venu pour moi de rejoindre l'armée. C'est quelque chose qui va profondément changer ma vie. Bon, j'ai un poste que je vise au sein de cette brigade. Le poste que je vise correspond à ce que j'ai envie de faire, c'est d'aider l'armée à s'approvisionner en choses de première nécessité, d'aider ma brigade surtout. C'est quelque chose que j'ai déjà fait dans le cadre de notre ONG et donc que je continuerai à faire tout en étant déjà militaire. Je ne sais pas si je vais pouvoir voir souvent ma famille ou pas, je ne sais pas où je serai basé. C'est vrai que c'est un grand changement. J'ai réussi à avoir quelques semaines de délai pour me préparer. Donc je profite pour m'acheter quelques petits trucs, un sac à dos, des chaussures, tu vois, des torches, des choses comme ça. Après, c'est quelque chose à quoi j'étais plutôt prêt sur le plan psychologique parce que j'y ai pensé depuis longtemps en fait et je me disais bien que ça, je ne pourrais pas échapper à ça. Et moi qui côtoie les militaires quotidiennement, je sais à quel point ils sont fatigués et à quel point ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin que nous, civils, on rejoigne l'armée pour les aider, pour que la victoire de l'Ukraine devienne une réalité. Malheureusement, on a besoin non seulement des munitions, mais aussi des hommes. C'est notre devoir à tous de réfléchir à ça et de faire de notre mieux. Lorsque ton pays t'appelle, répondre présent, malgré le fait que ça change complètement notre vie et qu'on est obligé de laisser notre quotidien plutôt confortable, même si ça paraît un peu bizarre dans un pays en guerre. Mais bon, on a de quoi manger, on a de quoi boire, on peut se promener. On peut voir des amis. Et là, il faut tout laisser, il faut aller au combat. Le moment est venu, il faut répondre présent, il faut penser à son devoir devant son pays, devant son peuple, et accepter ce défi avec dignité. Voilà, chose que je vais faire, et que je suis déjà en train de faire. Voilà, mais sinon le moral est bon. Un peu bizarre, ça fait quand même un peu bizarre, mais ça va, ça va. Bon courage, merci encore énormément pour ce que vous faites, toi, tes collègues, Radio France et tous les journalistes français qui continuent à parler de l'Ukraine, c'est vachement, vachement important. Le moment ici est difficile. Il y a pas mal de gens qui craquent, tu vois, il y a des balançoires émotionnelles. On passe de la joie à la tristesse très rapidement. On se sent très fatigué. Mais il faut continuer à rester mobilisé. Merci pour tout. À bientôt, Isabelle. Ciao.
Je n'ai pas demandé à Dmytro s'il aimait cette musique religieuse orthodoxe, lui, le batteur de métal, mais c'est une façon de l'accompagner vers son nouveau destin. Guerre en Ukraine, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Virginie Pironon, avec Camille Fazilova, Frédéric Seys, Sylvain Tronchet, Anastasia Chapochkina et Darina Marina Patiouk du groupe de réflexion Eastern Circles, François Saltiel et bien sûr Dmytro Kouchnir. Mise en onde Alex Dang, production Isabelle Labéry. À jeudi.
C'était Guerre en Ukraine, le podcast de la rédaction internationale de Radio France.